Bonne voix.
Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. La guerre se poursuit toujours dans l'est de l'Ukraine. Elle entre dans sa quatrième année avec une question: comment continuer à mobiliser les troupes? Certes, l'état de l'armée ukrainienne n'est plus aussi désastreux qu'il était en 2014, mais les conditions de vie précaires, le manque d'hygiène ont des répercussions directes sur l'état de santé des soldats, y compris sur leur santé dentaire. À quelques kilomètres de la ligne de front, des dentistes volontaires ont ouvert un cabinet entièrement gratuit. Son financement est assuré par des dons sur Internet. Dans le village de Karlovka, Sébastien Gobert est allé visiter ce cabinet, pas comme les autres, appelé Trizoub Dental.
Bienvenue, nous sommes dans le meilleur cabinet de dentistes d'Ukraine, en tout cas le plus joyeux. Bon, tout cela ne s'est pas fait en un jour.
Ihor Yashenko est heureux de faire le tour du propriétaire. L'homme est loquace et il aime raconter l'histoire de Trizoub Dental. Trizoub qui veut dire trident, l'emblème national ukrainien.
Vous avez ici du matériel de toutes sortes, des masques respiratoires, un compresseur, une pompe. Donc, vous voyez beaucoup de bazar, mais c'est du bazar utile.
Ihor vient de Zaporijia, une grande ville industrielle de l'est de l'Ukraine. Il habite depuis 2 ans dans ce petit village de Karlivka, un endroit calme, idéal pour y établir son cabinet de dentiste. Même s'il reste à quelques kilomètres à peine de la ligne de front.
Bon, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas d'eau dans le village. Ils sont en train de la réparer après un bombardement.
De fait, la petite maison au bout d'une route défoncée ne paye pas de mine. Mais dans le cabinet, on trouve de l'équipement dernier cri, pour la plupart de fabricants européens. Dans chacun des deux fauteuils, un soldat de l'armée ukrainienne, la bouche ouverte.
Regardez, ça c'est notre registre. Tous les patients y sont inscrits. Alors, depuis le début de l'année, ce patient qui est sur le fauteuil là, c'est notre 1127e.
Au moins 50 000 soldats sont stationnés en permanence dans le Donbass. Selon Ihor Yashenko, 95% d'entre eux ont besoin de soins dentaires que l'armée ne peut pas couvrir. Des organisations médicales organisent des consultations ponctuelles et des cabinets mobiles montés sur camions circulent dans la région, mais le cabinet de Trizoub Dental, c'est le seul permanent en zone de guerre. Dans le couloir, Ihor Grigorovitch, 46 ans. Il attend son tour, un air inquiet sur son visage.
Pour être parfaitement honnête, j'ai très peur du dentiste. Alors, je n'y vais que quand ça fait vraiment mal. Là, j'ai vraiment mal, alors je suis venu. Je sais que les dents, c'est très important. Si elles ne sont pas bien traitées, on ne peut pas fonctionner correctement.
Ihor Grigorovitch a fait plusieurs dizaines de kilomètres aujourd'hui pour se rendre au cabinet, qui jouit d'une très bonne réputation.
Ce n'est pas ma première consultation chez le dentiste. Mais là d'où je viens, des équipements comme ça, on n'en a jamais vu.
Les dentistes soignent aussi des civils. Et pour tous, les soins sont entièrement gratuits. La collecte de fonds est un défi permanent, mais Ihor Yashenko a toujours confiance.
Pour trouver des ressources, on va sur Facebook. On écrit un message. Chers citoyens, nous sommes à court de ça et de ça. Et les gens nous donnent. Les autres dentistes d'Ukraine nous aident beaucoup, car eux comprennent très bien ce que ça veut dire de tenir un cabinet de dentiste.
Les dentistes sont tous bénévoles. Ils viennent quand ils le peuvent. Alexandra Sourova vient tout juste d'arriver d'Odessa pour travailler une semaine complète.
Venir ici pour aider les soldats, ça m'aide à trouver une motivation pour mon travail avec les civils à Odessa. Ici, cela me rappelle ce que je fais et pourquoi je suis utile.
Alexandra est venue avec Anatoly Stodovo, un jeune professionnel qui est lui affublé d'un chapeau en forme de lion en peluche, pour détendre l'atmosphère.
Beaucoup d'entre eux aimeraient mieux être sous le feu à Donetsk que de s'asseoir dans le fauteuil du dentiste. Alors, pour faire passer la peur, on travaille avec des chapeaux rigolos. Nous avons toute une collection de chapeaux en forme de peluche que nous complétons avec le temps.
Trizouk Dental, c'est plus qu'un simple cabinet de dentiste. C'est un lieu d'accueil et le cœur d'une communauté qui dispose même de sa propre station de radio, Trizoub FM. Les bénévoles s'en servent pour écouter la musique de leur choix et faire passer des messages personnels.
Les volontaires se sont mis en tête de faire une radio. Jamais aucun d'entre eux n'avait touché à la radio avant. Les débuts ont été très drôles. Mais on y est arrivé, comme des amateurs.
Ni la radio, ni le cabinet de dentiste n'ont de licence de l'État. Mais cela ne les empêche pas d'opérer en paix.
Jusqu'à présent, le gouvernement ne s'occupe pas de nous. Et c'est très bien comme ça.
À l'inverse, Igor Yashchenko voudrait bien que son expérience soit mise à profit par les autorités.
Nous avons construit un modèle qui est opérationnel et efficace. Nous voulons maintenant le transmettre aux militaires. Leur système n'est pas adapté. Il était conçu comme de l'assistance d'urgence en cas de blessure. Mais l'armée a changé. Les soldats sont mobilisés pendant des mois. Certains ont 50 ans et un état de santé pas toujours glorieux. Personne ne les a entraînés, personne ne les soigne. Donc nous souhaitons mettre notre expérience au service de l'armée.
En attendant que le système du Trizoub Dental soit étendu à la médecine militaire, le cabinet dentaire apaise les soldats. Après l'intervention du dentiste, nous retrouvons le patient Igor Grigorovitch, l'air rassuré sur son fauteuil.
Sous anesthésie, c'est difficile à dire, mais je me sens déjà mieux. Et c'est vraiment un plaisir de traiter avec ces docteurs. Déjà, je peux vous dire que j'ai beaucoup moins peur du dentiste qu'il y a une heure.
Des dents plus saines pour des soldats plus résistants. Le pari de Trizoub Dental est tenu chaque jour, avec la possibilité qu'au-delà de la zone de guerre, la logique de l'hygiène dentaire s'étend au reste de l'Ukraine.
La réaction de la population à la mendicité, aux gens en Iran en général, elle est extrêmement paradoxale et ambivalente.
Interdire la mendicité, des villes comme Liège en Belgique ont déjà pris des arrêtés dans ce sens et la ville de Bruxelles pourrait y songer aux grandes dames des associations qui s'émeuvent que les pouvoirs publics choisissent de lutter contre les mendiants plutôt que contre la pauvreté. Pour faire mûrir le débat, le Forum Bruxelles contre les inégalités a publié un web documentaire intitulé « Salaud de pauvres », une enquête pour démystifier l'idée que l'argent nourrirait un vaste trafic et pour parler des hommes et des femmes derrière ceux qui font la manche. À Bruxelles, l'ex-Milota a rencontré le militant et le réalisateur qui ont permis de tourner ce film.
Madame, monsieur, une petite paix s'il vous plaît. Merci, bonne soirée.
Excusez-moi monsieur, je dors dans la rue. Pas un peu de bonheur.
Les réalisateurs du web documentaire Salaud de pauvres se sont rendus dans les gares de la capitale, gare centrale, gare du Midi, près de la Grand Place ou dans des artères commerçantes à la recherche des mendiants. Leur présence interpelle, dérange. Sur les réseaux sociaux, certains habitants se plaignent de plus en plus de voir des enfants mendier avec leur famille. Des commerçants disent avoir perdu leur clientèle habituelle, racontent voir des Roms arriver en Mercedes le matin. Entre mythe et réalité, Salaud de pauvres a voulu faire la part des choses. Nicolas Dekeuch, responsable du forum Bruxelles contre les inégalités.
En fait, ce qui nous étonnait, nous on observe les questions de précarité et de pauvreté en région bruxelloise, et ce qui nous étonnait, c'était que le sujet de la mendicité était peu abordé. Et d'ailleurs, durant cette enquête qui a duré plusieurs mois, on a essayé de trouver des experts du côté des universités, des académiques ou bien du côté de l'associatif et de la société civile. Et on s'est aperçu que peu de gens travaillent sur ce sujet de la mendicité, ont un avis sur ce sujet de la mendicité. Ce qui donne d'ailleurs un peu le champ libre aux pouvoirs publics et aux communes notamment, pour émettre des règlements anti-mendicité sans qu'elles aient un contre-feu et un contre-pouvoir qui puisse critiquer ce genre de décision.
Quelquefois, on me propose de m'en sortir, mais toujours moi. Et après, je retourne dedans.
Ils s'appellent Patrick, Dédé ou Christiane et ont accepté de témoigner au micro du réalisateur Patrick Séverin. Il a tenu à mettre des mots sur ce qui n'est d'habitude qu'un gobelet par terre, quelques pièces, une main tendue.
On aime montrer l'être humain qui a derrière des statistiques ou derrière des idées reçues. Souvent, de montrer la personne qui est derrière, ça permet de mieux comprendre ces réalités qui nous échappent un peu. Quand vous passez votre journée dans la rue à subir le regard des gens, souvent, en fait, discuter, c'est, ils ne demandent pas mieux. Nous, on vient avec nos a priori, on a l'impression que ça va être compliqué d'aller, qu'il y a quelque chose de tabou là derrière. Alors qu'en fait, si vous arrivez avec votre caméra et tout ça, c'est plus compliqué. Mais en arrivant pour discuter, ils s'ouvrent assez rapidement. Et puis progressivement, on peut faire intervenir alors d'abord le micro et puis la caméra ou l'appareil photo.
Excusez-moi de vous déranger, monsieur. Vous n'auriez pas un peu de monnaie pour manger?
Après 3 mois sur le terrain et une quarantaine de rencontres, Patrick Séverin a pu confronter certains de ses préjugés à la réalité. Il n'a pas trouvé de réseau criminel de mendiants roulant en Mercedes, par exemple. En revanche, le réalisateur confirme que souvent, une grande partie de l'argent donné est dépensé en alcool pour des raisons de survie dans la rue. Patrick Séverin voit les mendiants différemment.
Le malaise face aux mendiants, il reste, quoi qu'il arrive, et je pense qu'il est sain. Parce que le mendiant, il est là aussi pour... On veut les cacher souvent, mais en fait, il est là aussi pour nous rappeler, pour rappeler à notre conscience que la pauvreté existe et qu'elle frappe à la porte tous les jours. C'est bien qu'il soit voyant et c'est bien qu'il nous mette mal à l'aise. Par contre, je suis beaucoup plus à l'aise dans ma relation avec le mendiant. Et ce qui est sûr, c'est que je ne donne pas à chaque fois, mais je suis plus à l'aise avec ça. Mais ce que je donne à chaque fois, au moins, c'est un regard et une parole, en tout cas.
Depuis quelques semaines, la municipalité évoque la possibilité d'un règlement pour encadrer cette mendicité. On essaye de travailler sur la notion de trouble à la tranquillité publique, déclare une membre du conseil municipal. Le sujet étant très délicat, le bourgmestre de Bruxelles ne tient pas à répondre à une interview. Pour l'instant, nous indique son service de presse. Pour Nicolas Dekeuch, responsable du forum Bruxelles contre les inégalités, les autorités se trompent de combat.
On en arrive dans ce domaine-là, celui de la mendicité, mais dans d'autres domaines aussi, par exemple celui du sans-abrisme, à une certaine criminalisation de la pauvreté, ou en tout cas une criminalisation des actes qui sont liés à un état de pauvreté. C'est ce qu'on veut dénoncer avec ce web-documentaire.
L'association veut rappeler qu'il faut lutter contre la pauvreté et non contre la mendicité, avec un constat au bout du documentaire. Patrick Séverin.
Sur la quarantaine de mendiants qu'on a interviewés, il y en a 2 qui étaient décédés, qui étaient morts en rue. Et donc, à la fois, ça soulignait que cette parole, elle est fragile et qu'il faut la saisir quand elle est là, et ils ont quelque chose un peu d'indestructible, comme ça, finalement, ils sont là tous les jours, on les voit, et on a l'impression que la vie passe sur eux, mais en fait, non, leur vie, elle est très, très changeante, très fragile, et il en meurt pas tous les jours, mais presque, quoi.
Braquage, c'est 3 minutes de peur, mendicité, c'est demander à tous les gens, blablabla. Moi, j'aime pas, mais j'ai mis mon orgueil de côté.
Et le web documentaire est à retrouver sur le site salaud de pauvre au pluriel, saloddepauvre.be. Les Samis, les peuples autochtones lapons du nord de l'Europe sont eux aussi victimes du réchauffement climatique et du développement industriel. La nourriture est de moins en moins abondante pour les rennes et la transhumance plus difficile. En Norvège, à Tromsø, le musée universitaire consacre une exposition permanente à cette problématique. Isabelle Romero a fait la visite en compagnie de Nicolas Tyler, un biologiste spécialiste des rennes et passionné passionné par la culture Sami.
Face à un paysage enneigé, un renne naturalisé à la robe blanc crème nous accueille à l'entrée du musée. Derrière lui, un Sami sur des skis. L'image est aussi belle qu'exotique, car face au changement climatique, les Samis ont bien du mal à perpétuer leur tradition d'élevage. Nicolas Tyler, biologiste.
Vous avez à présent des périodes de redoux en hiver, même à l'intérieur des terres. Et quand cela arrive, la couche de neige légère fond, puis gèle à nouveau et elle devient très dure. Et c'est difficile pour les animaux de creuser cette neige très dure pour atteindre les plantes dont ils se nourrissent et qui est piégée en dessous.
Les Samis sont donc obligés de donner ponctuellement du fourrage à leurs rennes, d'autant qu'ils pâtissent eux aussi du développement industriel. Terminaux de gaz liquéfiés, éoliennes et routes viennent détruire les pâturages quand ils ne perturbent pas les chemins de transhumance qui sont coupés. Pourtant, le renne reste au cœur de la culture Sami. Leur langue comprendrait une centaine de termes pour désigner cet animal avec qui ils entretiennent une proximité particulière.
Un troupeau de rennes n'est pas la propriété de la famille dans son ensemble. Il se compose d'animaux appartenant individuellement à des personnes précises, comme vous pouvez le voir ici. L'entaille sur l'oreille indique à qui appartient chaque animal. La première au père, la seconde à la fille, la suivante au fils, puis au petit-fils, à la belle-fille, etc., etc.
La transhumance, qui est empreinte de sacré pour les éleveurs, rythme toujours leur vie. Nicolas Tyler.
Ceci, c'est un laveau. C'est la tente qu'ils utilisent quand ils se déplacent pendant la transhumance au printemps ou en automne. Maintenant, les Samis restent dans le village en hiver, mais ils se relaient dans les montagnes pour garantir une présence humaine. Quelqu'un vit dans un laveau pendant 4 ou 5 jours, il est ensuite remplacé, et donc il y a toujours quelqu'un avec le troupeau.
Aujourd'hui, seule une minorité de Samis, environ 3000, vit de l'élevage des rennes. La plupart d'entre eux vivent dans des villes, mais ils gardent la fierté de cet héritage ancestral et organisent par exemple des courses de rennes lors des fêtes traditionnelles, comme la fête nationale Sami le 6 février ou le festival de Pâques à Kotikaino.
Et on terminera cette émission en Pologne. Les cigognes, le symbole du pays, sont de retour à cette période de l'année, si bien que certains villages en ont fait un argument touristique à Varsovie. Maja Szymanowska.
Dans le minuscule village de Pentowo, à l'est de la Pologne, la tempête de 1991 a brisé tous les arbres. Cette catastrophe naturelle a pourtant eu des conséquences inespérées. De nombreux cigognes ont construit depuis leur nid sur ces troncs restés debout sans couronne. Les volatiles viennent si nombreux chaque année à Pentowo que le village a été élu le village européen de la cigogne. Une aubaine pour les habitants qui voient dans la cigogne le symbole du pays. Ces oiseaux migrateurs plébiscitent en effet la Pologne. Une cigogne sur cinq y fait halte au printemps ou en été. Ainsi, 30 000 cigognes construisent leur nid chaque année sur le territoire polonais. Elles arrivent au mois de mars pour repartir fin août. La cigogne est considérée ici comme un porte-bonheur. Une maison avec un nid de cigogne sur le toit n'aurait plus besoin de paratonnerre. Mais au-delà de ces croyances, la cigogne est devenue une véritable attraction touristique. Le village de Pentowo se trouve sur un parcours, appelé le parcours des cigognes, à effectuer en vélo de 412 km de long. Il commence à la frontière lituanienne, au nord-est du pays, et descend en serpentant dans les campagnes vers la frontière biélorusse. Sur la route, on trouve des observatoires où des spécialistes vous expliquent la vie de ces grands échassiers. On y apprend qu'un nid de cigogne peut peser presque une demi-tonne, que les parents cigognes ont 2 à 3 petits et doivent ramener au nid 6 kilos de nourriture par jour. Et pour ceux qui ne sont pas sportifs, une page internet spéciale permet d'observer en direct la vie des villages et des cigognes, Bociane Online, la cigogne en ligne. Et les Polonais sont tellement amoureux de ces volatiles qu'une encyclopédie en ligne, elle aussi, à part entière, leur a été dédiée, Bocianopédia, c'est-à-dire une cigognopédie.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission, Accent d'Europe, et sur les réseaux sociaux. À demain.